Bidon, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit, et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Café Dance New Wave, tous les mercredis, de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Bien, l'intégration sociale des peuples autochtones, appelés pygmées, pose souvent problème dans presque toutes les provinces de la République. Ils n'ont pas accès à l'éducation, aux soins de santé de bonne qualité et à d'autres services sociaux de base. En outre, ces autochtones souffrent souvent d'un complexe d'infériorité par rapport au Muntu, comme on le dit. Et ce qui pose un sérieux problème d'intégration, de leur intégration, voilà, dans la société. Alors comment promouvoir le développement des peuples autochtones, comment faciliter leur intégration? Eh bien, nous abordons toutes ces questions avec notre invité, Patrick Kipalu, coordonnateur national d'une organisation dénommée Forest People Program, le programme pour le peuple des forêts. Encore une fois, bonjour, monsieur Patrick.
Bonjour, monsieur.
Alors, dites-nous, comment peut-on arriver à promouvoir le développement des peuples autochtones? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les préalables?
Merci pour votre question et j'ai commencé par dire merci de m'avoir sur votre plateau. Comme vous avez dit, je suis M. Patrick Kipalu et je coordonne les activités des Forest People's Program ici à République démocratique du Congo. Forest People's Program est une organisation de droit britannique qui a pour mission de pouvoir assister les communautés forestières, communautés locales et autochtones dans la sécurisation de leurs droits. Et nous pensons que pour pouvoir soutenir les communautés, à pouvoir améliorer leurs conditions de vie, à pouvoir s'autodéterminer en ce qui concerne particulièrement les communautés autochtones, les peuples autochtones communément appelés pygmées en République démocratique du Congo, nous pensons que les débats commencent avec la question du respect de droits humains. Et toutes les politiques, toutes les initiatives qui peuvent être mises en œuvre pour pouvoir assister ces communautés à améliorer leurs conditions de vie doivent passer ou bien commencer par la question de droits des communautés autochtones.
Voilà, le respect des droits humains. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les droits de ces personnes ne sont pas garantis, ne sont pas respectés aujourd'hui?
Les communautés autochtones pygmées en République démocratique du Congo sont une communauté, c'est la communauté la plus pauvre et la plus marginalisée en République démocratique du Congo. Mm-hmm. J'ai dit ça basé sur l'expérience, sur le terrain. Ces communautés se sont vues éjectées de leurs terres traditionnelles dans beaucoup de provinces, dans beaucoup de parties du pays, ce qui fait qu'ils vivent dans l'errance, sans terre, et dans la majeure des parties du pays, là où ces communautés vivent, elles ont des difficultés pour avoir accès à l'éducation, accès aux soins de santé primaires, accès à la justice, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de travail, ils traversent des conditions de vie très précaires. Donc nous pensons que lorsqu'on commence par respecter leurs droits, ça veut dire qu'on respecte leurs valeurs humaines, on leur donne accès à tous les soins de santé primaire, l'accès aux services de base, ça c'est le départ qui peut pouvoir commencer à améliorer un tout petit peu les conditions de leur vie et l'intégration de ces communautés dans la vie active au niveau national.
Vous dites que ces communautés ont été délogées de leur milieu naturel?
J'ai dit que beaucoup de ces communautés vivent avec des menaces sur leurs droits fonciers traditionnels dans
Pourquoi?
Leur milieu de vie.
Pourquoi?
Je donnerai un exemple. Il y a beaucoup, vous savez, dans notre pays, par exemple, beaucoup de communautés forestières et les communautés autochtones, bien sûr, ont de droits coutumiers sur leurs terres traditionnelles, mais ces droits, ces communautés ne possèdent pas des titres formels, des certificats sur leurs terres.
Oui.
Ce qui fait que dans l'attribution, dans l'affectation des terres à différentes activités, plusieurs fois ces communautés ne sont pas consultées. Elles se voient comme ça, des gens qui débarquent, qui disent désormais cette concession va servir à telle activité ou à telle autre, et eux se retrouvent avec nulle part où aller. Je donnerai un exemple. Nous sommes dans dans un processus de dialogue actuellement avec le gouvernement, l'Institut congolais pour la conservation de la nature et quelques communautés autochtones du territoire de Kalehe, du territoire de Bunyakiri et de Kabare dans le sud Kivu, concernant la question du déguerpissement de ces communautés pour la création du parc national de Kahuzi-Biega dans la province du Sud Kivu. Les communautés qui ont été évictées, éjectées de leurs terres pour que ces parcs soient créés, jusqu'à aujourd'hui sont dans l'errance. Elles n'ont pas de terres où vivre. Elles sont accueillies par d'autres communautés locales bantoues, mais sur des terres qui leur sont, entre guillemets, étrangères, où ils n'ont pas beaucoup de droits et ne peuvent pas beaucoup faire. Et le fait que leur façon de vivre, leur style de vie est lié intrinsèquement à leur terre, et comme il manque de terres, donc ils sont... leurs conditions de vie sont beaucoup plus précaires et voilà. Donc ça c'est tout simplement un exemple. Mais quand vous allez dans beaucoup d'autres dans toutes les autres provinces, vous remarquez des mêmes cas, des mêmes problèmes avec beaucoup d'autres activités.
Mais dans quelle partie du pays on retrouve ces communautés généralement?
Les communautés autochtones pygmées en République démocratique du Congo sont partout à travers les transits de la République, sauf en province du Bas-Congo.
Dans toutes les autres provinces,
dans toutes les autres,
vous communautés partez, sont
dans, oui, dans toutes les autres provinces, les communautés autochtones sont présentes.
En Équateur, on parle des Batois.
Vous avez les Bambouti, par exemple, dans la partie est jusqu'au sud, dans la province du Katanga. Mm-hmm. Vous avez les Toa en Équateur, au Bandundu aussi. Il y a une très grande communauté des peuples autochtones.
Mm-hmm. Donc, pour promouvoir leur développement, vous dites d'abord, il faut respecter les droits humains. Droits, surtout les droits fonciers.
Nous pensons que la question de pouvoir promouvoir le développement des communautés autochtones en République démocratique du Congo passe d'abord par la question du respect de leurs valeurs humaines, de leurs droits humains, parce que ces communautés font face à une marginalisation qui conduit à une discrimination qui conduit à la marginalisation de ces communautés dans la vie politique, dans la vie économique, sociale et même culturelle du pays. Ce sont des communautés que tu ne rencontres pas beaucoup dans différents domaines de la vie nationale.
Mais pourquoi? Parce que ils n'aiment pas vont pas à l'école, ou il n'y a pas de structure pour...
Parce que d'abord ils ont un style de vie qui est différent des autres communautés. Mm-hmm. Deuxièmement, ces communautés vivent à des endroits très très reculés de notre pays, hein, dans des provinces, dans la forêt. Par leur style de vie, ils se déplacent beaucoup. Par leur style de vie, nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures qui leur prennent en charge maintenant, qui limitent au fait les opportunités dont ces communautés doivent avoir accès pour permettre leur développement. Donc ce que nous essayons de faire aujourd'hui comme notre combat, c'est de pouvoir faire le plaidoyer pour la reconsidération de la valeur humaine de ces communautés, le respect de leurs droits et leur consultation pour la mise en place des politiques qu'il faut pour leur développement et leur participation effective dans ces politiques-là, dans leur conception, mais aussi dans leur mise en œuvre et dans leur suivi sur le terrain.
On peut estimer à combien le nombre global des peuples autochtones en République démocratique du Congo?
Aujourd'hui, les estimations vont entre 600 000 et 1 million de personnes pygmées à travers l'étendue de la République.
Et le taux de scolarisation, par exemple, est de combien?
Je ne peux pas donner une estimation, mais c'est très, très négligeable. D'abord, vous allez comprendre que ça, ce sont nous parlons des communautés qui bougent beaucoup au courant de l'année dans leur milieu de vie.
Et pourquoi? Parce qu'il faut chasser leur façon de vivre.
Voilà, ils vivent par la cueillette, ils vivent par la chasse. Oui. Donc, ils vivent par des activités comme ça qui les obligent à se déplacer beaucoup dans la forêt. Aujourd'hui, à cause de la pression sur la terre, à cause des problèmes d'accès aux fonciers, beaucoup de ces communautés se retrouvent maintenant obligées à être cantonnées à certains endroits, mais dans leur style naturel de vie, ce sont des communautés qui bougent beaucoup d'un endroit à un autre.
D'accord. Nous avons deux auditeurs en ligne, Jean d'Ambauche d'Ecology et Félicien Kindoula de Kinshasa. Vous voulez également participer à cette émission? Appelez au 081-890-63-94.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiookapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître,
Des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiocafé.net. Allez-y, on vous attend.
Comment promouvoir le développement des peuples autochtones en RDC? Jean Damboche, si vous êtes à Kolwezi, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité, à tous les milieux auditeurs de la radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Jean?
Voilà, j'ai quelques préoccupations concernant ce sujet, parce que je me rends compte que c'est avec beaucoup d'erreurs, monsieur, que je voudrais vous présenter ma préoccupation. Vous savez, nous sommes ici à Kolwezi. Il y a une entreprise qui est ici à Kolwezi, parce que nous parlons aujourd'hui de la promotion de la population autochtone. Mais qu'est-ce que nous remarquons ici? Dans cette entreprise, il y a les expatriés, c'est-à-dire les Indiens et les Congolais. Mais on a remarqué que le nombre des Indiens est plus élevé que celui des Congolais. Et même les salaires touchés par ces Indiens, ce n'est pas comparable à
celui des... Oui, Jean, aujourd'hui nous parlons de la promotion des peuples autochtones, on parle des pygmées, qu'on appelle communément les pygmées.
Voilà,
c'est cela, on parle particulièrement des pygmées, donc l'exemple que vous donnez nous éloigne de notre sujet du jour. Merci d'avoir appelé. Félicien Kindoula, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Ah, on vous écoute. Hein.
Oui, moi je disais que le problème de la marginalisation des peuples autochtones n'est pas seulement un problème congolais. Et on a connu à travers l'histoire des situations semblables avec les Indiens aux États-Unis et les aborigènes en Australie et Autriche et tout ça. Et dans beaucoup de pays, pour ne citer que cela, mais ces pays-là ont appliqué des politiques d'intégration. Et aujourd'hui, on parle de moins en moins de la marginalisation de ces peuples autochtones. Ici, chez nous aussi, j'ai vu quand même à l'époque de la Deuxième République qu'on avait commencé à faire de l'intégration des pygmées. Donc c'est une question de volonté politique. On peut arriver à faire de l'intégration de ces peuples. Ils peuvent vivre comme toutes les tribus. Et même quand on dit qu'ils ne sont pas sédentaires, ils se déplacent à tout moment, ils doivent vivre dans la forêt. Mais c'est un problème d'adaptation. Même les autres communautés, les Bantous et tout ça, ils avaient des migrations. Et ils sont venus de loin pour s'installer aujourd'hui. Donc le peuple pygmée aussi peut devenir sédentaire et il peut aussi s'adapter à la nouvelle situation. C'est un problème de volonté politique de faire en sorte que ces gens-là vivent comme tout le monde et qu'on les respecte et que des lois les protègent. Et ils sont aussi des hommes comme nous, il n'y a pas de différence. Et on ne peut pas dire qu'ils ne peuvent vivre que dans la forêt, ils peuvent vivre de la cueillette et tout ça, parce que nous tous, nous sommes venus de là, toutes les tribus, nous vivions de la cueillette et aujourd'hui, nous ne vivons plus de la cueillette.
Merci, Félicien Kindoula. Polycarpe Abouezo, vous êtes à Moba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, monsieur l'invité.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'intégration, la promotion des pygmées en RDC?
Oui. Bon, ici chez nous à Moba, nous avons aussi le pygmée appelé le Badois. Bon, le problème qui est là, monsieur le journaliste, c'est le problème de la conception des différents projets. Ils sont souvent conçus au niveau supérieur, au niveau de Kinshasa, Afrique. Mais là, comme conséquence, nous avons le bénéficiaire direct, ce ne sont pas des pygmées, le bénéficiaire direct deviennent les concepteurs des projets. Mais là, ici le Badois reste toujours marginalisé dans tous les plans. Surtout sur le problème de l'habitation. Ils ont des gaz, des huttes. Mais là, ma préoccupation est de savoir pourquoi on veut toujours amener quelqu'un de Kinshasa ou bien de loin pour exécuter certains projets. Et pourtant, ici sur place, nous avons des ONG locales qui s'occupent des pygmées. Pourquoi on veut toujours envoyer des gens pour exécuter cela? Les pygmées souffrent vraiment, monsieur le journaliste.
D'accord, merci Polycarpe Boiseau. Et vous, là-bas, vous avez dit qu'on les appelle les Badois.
Les Badois, oui, les Badois.
D'accord. Voilà, ils vivent de la cueillette et de la chasse.
Oui.
D'accord, merci. Patrick, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais dire que l'intervention de Monsieur Félicien Kindoula de tout à l'heure était très intéressante et vraie. J'appuie ce qu'il dit. Je crois que les communautés autochtones ont fait face à beaucoup de difficultés, beaucoup de défis dans tous les pays à travers le monde entier et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des améliorations dans beaucoup de pays. Si vous allez au Nouvelle-Zélande par exemple, vous
les peaux rouges dans les Amériques.
Exactement. Hein, ouais. Il a parlé des Indiens, il a parlé des aborigènes. Vous avez les Indiens de l'Amazonie au Brésil, dans tous les autres pays de l'Amérique latine.
Aujourd'hui, ces communautés sont intégrées.
Aujourd'hui, l'intégration continue à être faite. Mmh. La sécurisation de leurs droits est de plus en plus accentuée. Mais nous sommes beaucoup vraiment en retard. Notre situation à RDC est beaucoup plus en retard par rapport à ces autres pays. Nous devons donc suivre l'exemple pour essayer d'améliorer les conditions de vie de nos communautés. Et cela passe par la volonté politique. Comme a dit M. Félicien Kindoula tout à l'heure.
Pour voter des lois qui protègent leurs droits.
Exactement. Pour le moment, par exemple, nous sommes en train de travailler avec beaucoup d'organisations de peuples autochtones pygmées en RDC pour la mise en place d'une proposition de loi portant un principe fondamental relatif à la protection des droits des communautés autochtones pygmées en RDC. Mm-hmm. Nous avons consulté toutes les communautés, presque des communautés autochtones à travers toute la République pour mettre en place cette proposition de loi qui a été déposée à la table de l'Assemblée nationale et qui est prévue, nous espérons, pour discussion dans notre Parlement pendant la session du mois de septembre. Nous espérons vraiment que les députés de l'Assemblée nationale vont voter pour l'adoption de cette loi et que le chef de l'État plus tard va le promulguer en loi. Ça va aider beaucoup à pouvoir améliorer les conditions de nos concitoyens autochtones en RDC.
Mais Félicien a également dit que vous avez dit que c'est un peuple nomade, mais ils doivent également s'adapter au changement et devenir sédentaires parce que même les Bantous sont venus d'ailleurs et puis ils se sont établis, ils sont devenus sédentaires.
Naturellement, ils sont nomades, mais ils peuvent évoluer dépendant de leur propre volonté. La politique, la mission ou la vision de mon organisation pour laquelle je travaille, Forest People's Program, est que nous croyons et nous respectons les principes d'autodétermination des communautés, des populations. C'est-à-dire, nous devons laisser à chaque personne le droit de pouvoir autodéterminer son approche, son style, son moyen de développement, sa façon de vivre. Donc, si ces communautés peuvent s'adapter et vivre de façon sédentaire comme les autres, pourquoi pas leur donner les moyens pour pouvoir le faire? Ils ont le droit, on doit respecter leurs droits. Mmh. Et comme disait notre ami Polycarpe dans les Katanga, la grande Katanga tout à l'heure.
Moba, oui.
Oui, à Moba là-bas. Nous pensons que c'est très très important de pouvoir consulter au niveau local et utiliser les moyens locaux et la main d'œuvre locale pour essayer de résoudre des problèmes au fait qui sont locaux. Jusque là, beaucoup de programmes de développement ont échoué pendant des décennies et des décennies, particulièrement en Afrique et en Asie. Pourquoi? Parce que ce sont des programmes qui sont mis en place à l'étranger, qui sont réfléchis loin de là où les problèmes se trouvent et on essaie de vous importer des solutions qui ne matchent pas avec les problèmes qui se posent sur le terrain. C'est vraiment très très important, je suis d'accord avec son intervention, que les communautés doivent être consultées, elles doivent participer dans la mise en œuvre de tous ces programmes pour que ça puisse vraiment résoudre leurs problèmes sur le terrain.
Alors au niveau de Forest People Program, programme pour les peuples de forêt dont vous êtes le coordonnateur national, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire? Est-ce que vous avez déjà fait en faveur de ces communautés autochtones pygmées à RDC?
Merci beaucoup pour votre question. Nous avons deux grands programmes, deux grands projets que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement à République démocratique du Congo. Juste en passant, je dirais que Forest People's Program travaille en Amérique latine dans 11 pays. Nous travaillons en Asie du Sud-Est dans 9 pays. Et en Afrique, nous travaillons dans 12 pays, y compris la République démocratique du Congo. Et nous sommes à RDC depuis 2004. Et pour le moment, à partir de 2011, nous avons lancé un grand projet qui travaille dans 6 provinces. Et ce projet-là avait pour objectif de pouvoir informer les communautés forestières, donc les communautés autochtones pygmées sont à l'intérieur, informer les communautés forestières en ce qui concerne les processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, les processus RED. C'est un mécanisme des Nations Unies qui a été mis en place pour essayer d'encourager les pays qui ont de grandes étendues de forêts tropicales à pouvoir garder leurs forêts debout, parce que les forêts contribuent aussi à la lutte contre les changements climatiques. Ça veut dire à travers ces programmes-là que la forêt veut dire l'argent. Ok, si vous pouvez bien conserver vos forêts, si vous pouvez bien gérer vos forêts, vous pouvez réclamer des crédits carbone, des paiements basés sur les performances de la part de la communauté internationale. Donc c'est une menace lorsque la forêt est considérée comme argent pour les communautés qui dépendent des forêts et qui ont des droits non sécurisés, comme les communautés autochtones. Donc nous avons voulu leur apporter l'information pour leur dire, voici ce qui peut être comme bénéfice pour vous avec ces programmes RED, mais voici aussi ce qui peut venir pour vous comme menace ou bien comme risque avec ces programmes, afin que ces communautés puissent avoir toutes les informations nécessaires et discuter avec le gouvernement pour influencer les processus RED de telle manière que ces processus puissent être mis en œuvre de façon qui encourage et qui soutient et qui promet le développement des communautés autochtones. Mmh. Et à part les questions d'information, nous avons organisé beaucoup d'informations juridiques au niveau des communautés à travers 6 provinces pour essayer de leur informer ou bien former sur leurs droits. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Qui veut dire le processus RED va être en train de basculer en RDC vers la phase d'investissement. Lorsqu'on parle d'investissement, on parle de bénéfices. Et les bénéfices doivent être partagés avec les parties prenantes qui sont concernées.
D'accord. Alors, un instant, je reviens à vous tout à l'heure. Okay. Le temps d'accueillir 2 autres auditeurs. Polyp nous appelle de Kingu et Gentil Oumana de Kananga dans le Kasaï central.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Bien, comment promouvoir le développement des peuples autochtones? Polype, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est M. Polype, oui, Kindu d'Alemanema.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quelle est votre question?
Oui, j'ai quelques préoccupations. J'ai suivi l'invité avec beaucoup d'assiduité. Bon, je trouve, selon moi, qu'il y a à ce niveau 3 petites solutions. La première, c'est transformer tous les grands espaces forestiers en parcs nationaux. De cette manière, ils seront obligés de quitter ces forêts et finiront par s'intégrer dans les milieux urbains. Ainsi, la faune et la flore constituent du reste notre réserve pharmaceutique à nous tous, c'est-à-dire pygmées et bantous, seront protégées. Deuxième piste de solution, pour essayer de les décomplexer, il serait souhaitable de les exiger un mariage hétéro-ethnique. Entendez par là le mariage entre un Mbuti et une Montou. Comme ça, là, ils seront un peu décomplexé. Parce que quand il y aura un Mbuti qui se marie à une Montou, c'est facile que les Mbuti de petite taille soient un peu décomplexés. Troisième piste de solution, il fallait que les ONG cessent de parler des peuples autochtones. Ils seraient venus de quelque part quand même. Ils n'ont pas été créés seulement ici. Bon, ou est-ce que c'est un pays qui ont connu toutes ces transformations qu'on parle en histoire, je ne sais pas. Ils seraient venus quelque part. Alors, et parler aussi de leur milieu naturel, qui est la forêt. Tout ceci contribue à leur complexe d'infériorité. Les ONG sont les premières à leur créer des stigmates pour vu qu'elles bénéficient des fonds qui d'ailleurs ne leur arrivent pas. Voilà mes petites solutions.
Bien, merci Polype de Kindu. Gentil Oumana de Kananga, dans le Kasaï central. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité du jour.
Bien, quelle est votre question, Gentil?
Monsieur le journaliste, si je suis notre invité avec tout intérêt, lors de son parcours, il a parlé que les peuples pygmées se trouvent dans toutes les provinces de la RDC, sauf les provinces où c'est des bas Congo comme ça, je pense. Alors, ma question est la suivante. Je voulais demander à notre invité, est-ce pourquoi le gouvernement national ne peut pas rassembler tous les pygmées qui se trouvent dans la RDC, les rassembler, les mettre dans un même endroit, et doter aussi une province afin de suivre aussi leur évolution et leur évolution ou bien leur condition de vie plus près, c'est-à-dire lui doter aussi d'une province avec un gouverneur qui peut aussi les représenter aussi dans les conférences de gouverneurs, afin de poser aussi leurs conditions de vie plus près avec le président. Merci.
D'accord, merci gentil. Monsieur Patrick Kipal, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Ce sont des interventions très très intéressantes que j'ai beaucoup appréciées. Je vais rentrer là où on s'était arrêté. Donc j'ai parlé de ce que nous avons fait,
oui.
Les partages d'informations, formation juridique, cartographie des terres, pour produire des cartes que les communautés peuvent utiliser comme instrument de négociation avec des porteurs de projets RED. Mais aussi nous avons investi dans des activités de développement économique au niveau des communautés sur la base du droit des communautés au consentement libre préalable.
Ou par exemple au nord Kivu vers le parc de Kahuzi-Biega.
Dans toutes les provinces où nous avons intervenu, donc dans les Bas-Congo, Bandundu, Équateur, province orientale, sud Kivu et nord Kivu, nous avons appuyé des petits projets de développement économique, appuyé à l'agriculture, à la réparation de petits ponts, des sentiers.
En faveur des peuples autochtones.
En faveur des peuples autochtones et des communautés forestières à Bantou, dépendant de l'endroit où l'intervention prend place. C'est là avec deux objectifs. D'abord, réduire la pauvreté tant soit peu, mais aussi générer des leçons que nous pouvons partager avec le gouvernement sur probablement comment est-ce que les bénéfices de la RED peuvent être partagés avec les communautés sur le terrain lorsque les investissements commencent à envoyer des flux financiers au niveau du pays, lorsque nous sommes prêts pour cela. Donc c'est ça que nous avons déjà fait. Et maintenant, nous avons un autre projet qui est appuyé par l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne ici en République démocratique du Congo et qui vise toujours la sécurité alimentaire des communautés forestières avec la mise en pratique des principes, des réformes de gouvernance forestière. Ça, c'est avec l'appui de l'Union européenne, mais les premiers projets, nous les mettons en œuvre avec l'appui de l'Agence suédoise pour le développement international à travers l'ambassade de Suède qui est basée ici à Kinshasa. Et maintenant, pour revenir aux interventions de nos amis tout à l'heure, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les trois solutions de
Monsieur
Gentil Lumana. Polype de Kindu.
Oui.
Il a parlé d'abord de pouvoir transformer tous les espaces forestiers au pays en parcs nationaux.
Pour obliger les autochtones à quitter ces milieux-là et à s'intégrer.
Bon, je crois que ça serait déjà un problème parce que nous allons leur imposer une solution. Bon, c'est pratiquement impossible aussi dans la faisabilité que tous les espaces forestiers deviennent des parcs nationaux et alors toutes les autres activités du pays, où est-ce qu'on va les faire? Nous avons beaucoup de choses à faire et nous ne pensons pas que ça soit une bonne solution. Et la consultation ou le consentement des communautés est clé dans la mise en œuvre des politiques qui doivent réussir. Et sa deuxième solution, il a dit qu'il était...
Favoriser le mariage. Entre les Mbuti et les Mountu.
Exactement. Il faut voir maintenant avec les communautés comment favoriser ça. Parce que nous avons vécu beaucoup d'expériences sur les terrains où les gens sont menacés juste parce que une fille Mountu, par exemple, est tombée enceinte d'un homme pygmée. C'est grave dans certaines communautés. Ça existe jusqu'aujourd'hui dans différentes provinces de notre pays. Donc ça, c'est un élément capital à pouvoir voir. Mais
parce qu'on les considère comme des sous-hommes.
On les considère comme des sous-hommes. On les considère comme des gens pas vraiment... Donc c'est une honte de pouvoir se lier au mariage avec un autochtone. Mais donc ça c'est vraiment regrettable. Et nous pensons que il faut explorer avec les communautés la faisabilité de ces soutiens-là. Et il a parlé aussi...
Il dit que les ONG doivent arrêter de parler des peuples autochtones parce que finalement, ils sont venus aussi de quelque part.
Bon, ils sont venus de quelque part, de ces quelque part là, ils sont venus encore de quelque part, ils sont venus encore de quelque part. Donc il faut les communautés autochtones, l'histoire, les recherches, les historiens nous prouvent que les communautés autochtones pygmées ont été les premiers peuples à habiter sur les terres de notre pays. C'est pour ça qu'on les appelle communautés autochtones aussi ici en République démocratique. Nous tous les restes là, nous sommes venus de quelque part.
Oui.
Et par rapport à l'intervention
des gentils, des Kanagachis, pourquoi ne pas les rassembler? Le gouvernement peut rassembler tous les peuples autochtones et créer une province propre, donc dirigée par un gouverneur autochtone pygmé, et ainsi ils peuvent mieux défendre leurs intérêts ou leurs droits.
Nous croyons que ce qu'il faut faire, c'est pouvoir donner des opportunités à ces communautés partout où ils se trouvent, hein, sous leur consentement, leur donner accès aux soins des services, aux soins de santé, aux services de base, leur donner l'accès à la justice, à l'éducation, toutes les opportunités nécessaires pour pouvoir qu'ils se développent dans leur milieu. Nous avons par exemple dans le sud Kivu, la ministre provinciale de l'environnement, affaires foncières et agriculture, qui est une dame autochtone dans la province du Sud Kivu. Elle est là, madame, à son excellence, madame Adolphine Biayoua. Elle nous aide aussi beaucoup dans notre travail sur le terrain dans la province du Sud Kivu.
Donc de plus en plus, il y a quand même des autochtones qui étudient et qui occupent des postes de responsabilité. Le taux est encore faible.
Ça n'existe même pas.
Donc
ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le gouvernement, en consultation avec les communautés autochtones pygmées, partout à travers les pays, puissent mettre en place des politiques effectives qui doivent changer les conditions de vie des communautés autochtones. Parce que ici, nous parlons à la radio, il faut aller sur le terrain pour voir comment ces communautés vivent. C'est inacceptable. Et je sais de quoi je parle.
Comment promouvoir le développement des peuples autochtones? Didier Kounonga nous appelle de Kolwezi et Benjamin Ibela de Kindu.
Okapi-Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sports toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Comment promouvoir le développement des peuples autochtones, comment faciliter leur intégration, et également Didier Kounonga nous appelle de Kolwezi dans le Lualaba. Didier, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité et aussi à tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre question, Didier?
En fait, moi, ma préoccupation est celle-ci. Je crois que la réinsertion n'a pas un caractère obligatoire. Parce que moi, je crois que ces gens-là s'opposent à la réinsertion parce que pour eux, comme nous les connaissons, ils sont nomades, ils vivent de tout ça, la culture, la cueillette, tout ça. Mais si on les réinsère, c'est comme on dirait qu'on va les désorienter dans leur façon de vivre. Et aussi, je crois que si nos forêts restent forêts jusqu'à nos jours, c'est parce que cette communauté-là reste dans leur forêt. Si on les sort des forêts, l'exploitation des bois qui commencent, ils opposent aussi une sorte de force de résistance. Moi, je crois qu'on pouvait, au lieu de chercher à les réinsérer dans la société, bon, laisser qu'eux-mêmes cherchent à être insérés, au lieu de les forcer la main, moi, je crois, c'est la meilleure des choses à faire. C'est tellement comme l'invité vient de le dire, qu'il y a aussi quelques-uns de cette communauté-là qui occupent des postes dans la société. Bon, donc, ça va venir, on les laisse vivre leur vie au moins.
D'accord, merci Didier. Benjamin Ibela, vous êtes à Kindu, bonjour. Benjamin, bonjour. Il n'est plus là, mais il va sûrement peut-être nous rappeler. Vous avez suivi Didier qui dit il ne faut pas chercher à les intégrer des forces. Donc, on va les désorienter, laissez-le dans leur milieu naturel, la forêt. Et ensuite, il dit qu'il constitue une force de résistance contre les exploitants de bois. Ils opposent quand même, ils s'opposent à l'exploitation de bois, donc il faut les laisser vivre leur vie.
Je commencerai par dire, par noter quelque chose d'important que M. Didier a dit tout à l'heure. Mm-hmm. Il a dit que si nos forêts sont encore présentes, sont encore disponibles, sont encore là, c'est parce que ces communautés-là ont joué un rôle dans la préservation de ces forêts-là. Et ça, c'est exact. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'il faut dire que ces communautés ont des stratégies, des moyens d'exploitation des forêts de manière traditionnelle qui contribuent à la préservation, à la gestion durable des forêts. Et aujourd'hui, si nos forêts sont encore debout, il y a des recherches qui sont faites dans beaucoup de pays à travers le monde entier et qui prouvent que les portions des forêts dans la région tropicale du monde particulièrement, qui restent encore debout aujourd'hui, sont des forêts qui sont localisées dans les milieux où il y a des communautés autochtones. Donc ça veut dire que ces communautés ont joué un rôle dans la préservation de ces forêts-là. Mmh. Et nous pensons que si la RDC veut préserver ces forêts et continuer à préserver les forêts, a joué un rôle important dans la gestion durable des forêts, dans la lutte contre les changements climatiques à travers la gestion durable des forêts, la République démocratique du Congo doit savoir capitaliser les connaissances, l'expertise, le rôle des communautés autochtones dans la gestion durable.
Voilà, comme il a été dit, il ne faut pas les sortir de leur milieu naturel, la forêt. Nous, il faut faire un pas vers eux, aller par exemple construire des centres de santé dans la forêt, construire des écoles dans la forêt.
J'ai parlé tout à l'heure ici du respect du droit de ces peuples-là à leur autodétermination. Mm-hmm. J'ai parlé tout à l'heure ici de la consultation et du droit au consentement de ces communautés. Toutes les politiques qui peuvent être mises en œuvre pour leur développement, pour l'amélioration de leurs conditions de vie, doivent passer par leur consultation, par leur consultation dans la mise en place même de ces politiques-là, dans la définition.
Il ne faut pas les imposer les choses.
Il ne faut pas définir des choses à Kinshasa et aller leur présenter pour dire voilà ce que nous avons pour vous, c'est ça qui est. Parce que c'est eux qui connaissent bien leurs conditions et c'est eux qui peuvent proposer des solutions efficaces pour pouvoir changer leur situation sur le terrain. Et beaucoup de recherches ont été faites pour ça et beaucoup de connaissances sont sur la table. Mmh. Et la question des volontés politiques de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir améliorer les conditions.
Alors, on retient que pour améliorer les conditions de vie, il faut commencer d'abord par avoir des lois, mettre en place des lois qui protègent des gens, disons, leurs droits.
Nous avons dit qu'il faut...
Qui garantissent leurs droits.
Voilà, ça passe par le respect des droits humains et il y a présentement une proposition de loi pour la promotion de la protection des droits des communautés autochtones qui est sur la table de l'Assemblée nationale.
Qui sera débattue à la session de septembre.
Exactement. Nous prions que notre Assemblée puisse adopter cette loi et que ça passe au Sénat et que le président de la République puisse les promulguer en loi et que des politiques puissent être suivre des initiatives effectives, suivre après en consultation avec les communautés autochtones, tout en respectant le droit de ces communautés au consentement libre, préalable et informé. Cela va permettre à pouvoir améliorer leurs conditions de vie, à pouvoir changer leur situation sur le terrain.
Bien, Patrick Kipalou, coordonnateur national de l'organisation dénommée Forest People Program, le programme pour le peuple des forêts, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée.
Merci à vous.